19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous, merci, vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble dans les informés, eh bien nous sommes ensemble pour analyser, commenter, décrypter l'actualité, tous ensemble et partout en France, vous êtes avec nous. D'abord, au menu, l'invité d'aujourd'hui, eh bien nous retrouverons au menu de ce soir, celui qui vous accompagne. Vous savez, la polémique grandissante, une campagne lancée la semaine dernière par le Conseil européen, qui célébrait la diversité et la liberté dans le hijab. Eh bien, figurez-vous, aujourd'hui, il y a une espèce de levée de bouclier en France. On va en parler avec l'un des fondateurs du CCIF, mais également aussi un élu de Garges-lès-Gonesse. Nous reviendrons aussi sur un autre sujet d'actualité. C'est avec vous, 01 53 48 3000. Je vous ferai réagir, je vous attendrai. Comme tous les soirs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler. Eh bien, bienvenue tout à l'heure. Les auditeurs ont la parole, j'ouvrirai l'antenne. Et puis, le face-à-face avec Gamal Abina, une personnalité engagée que je ne présente même plus sur les ondes, mais également aussi Sabrina, une élue de Brétigny qui sera avec nous donc en direct pour confronter les deux sujets et leurs points de vue. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
L'invité actu, c'est parti.
Les informés, l'interview.
L'interview, c'est avec justement l'un des fondateurs du CCIF. CCIF, c'est quoi? C'est tout simplement le collectif contre l'islamophobie en France, qu'il a présidé d'ailleurs de 2003 jusqu'à 2017. Il s'appelle Sami Deba. Bonjour Sami Deba.
Bonjour, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous, Sami. On vous connaît puisque je crois que vous aviez déjà reçu lors des élections municipales, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons.
Ouais, ça serait juste.
Exactement. Vous êtes aussi un élu d'opposition sur la ville de Garges-lès-Gonesse. C'est bien cela?
C'est ça, dans le 95, dans le Val d'Oise.
Comment va la politique locale? Avant d'entamer les questions qui fâchent.
Très mal, toujours bien sûr les promesses de l'équipe municipale sortante au moment des élections. N'honore pas ses engagements et la ville elle est toujours dans le même état où on l'a laissé avant les élections.
Écoutez, on aura l'occasion d'en parler justement, mais alors là vous êtes invité, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette campagne européenne qui a démarré la semaine dernière. Je ne sais pas d'ailleurs si on peut retrouver quelques extraits sonore justement, mais c'est une campagne visuelle célébrant la liberté dans le hijab retiré après une grosse polémique. D'abord, comment réagissez-vous face à cela? Aujourd'hui, la France, évidemment, elle a été aussitôt retirée. J'explique avant de vous donner la parole, Sami Seba, parce que
Deba,
célébrant la diversité et la liberté dans le hijab, c'était lancé la semaine dernière par le Conseil de l'Europe et elle a déclenché, on peut le dire, une grande vive polémique en France, conduisant l'Organisation des droits de l'homme, plein d'organismes ont décidé aujourd'hui, ont poussé, ont mis quelques pressions pour la faire retirer. Vous, comment vous réagissez, Sami Deba?
Alors, tout d'abord, il faut préciser quelle est cette campagne. C'est une campagne du Conseil de l'Europe pour nos auditeurs, afin qu'ils comprennent bien qui est le Conseil de l'Europe. C'est une organisation qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, en ce sens qu'elle est composée certes de pays qui composent l'Union européenne, mais elle est bien plus importante que cela. D'accord ? Cette organisation d'État a l'habitude de lancer des initiatives d'inclusion qui visent à mettre en avant les minorités européennes, mais surtout la promotion du droit des libertés.
Oui.
Excusez-moi, j'ai un retour là qui me gêne vraiment dans mes écouteurs.
Ça doit être certainement, peut-être certainement, vous avez allumé la radio vous-même?
Non, pas du tout, j'ai tout coupé.
Alors, ça va s'arranger. On vous écoute. Donc, la campagne, si j'ai bien compris, c'est la beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. À quel point le monde serait-il ennuyeux si tout le monde se ressemblait, célébrait la diversité et respectait le hijab?
Bon. Tout à fait. En fait, c'est une campagne.
Pourquoi ça fait polémique?
Alors, c'est une campagne qui présente l'Europe d'aujourd'hui. Elle fait polémique parce que elle fait polémique d'ailleurs nulle part. Elle fait polémique qu'en France. Et justement, la question principale, c'est de comprendre, c'est de savoir pour quelles raisons en France elle fait polémique quand dans tous les États qui composent le Conseil de l'Europe, autour de 50 États, 40 à 50 États, elle est acceptée, je veux dire, parce qu'on est en plein dans l'esprit d'inclusion européen, cette volonté, oui. Parce qu'on a une présentation en réalité pro-choix de ces femmes qui portent le voile. Et c'est une campagne qui est très importante à l'heure où justement on stigmatise généralement les musulmans et en particulier ces femmes qui portent le voile et qui aujourd'hui se trouvent marginalisées dans certaines sociétés, particulièrement les sociétés qui ont des gouvernements de droite extrême ou d'extrême droite comme l'Autriche ou la Hongrie, mais de plus en plus la France également. Mais à ce titre, il faut savoir que l'attitude de la France, c'est une attitude de pays isolé, isolé à l'international, puisqu'elle est obligée de passer d'une phase défensive à une phase offensive à l'échelle internationale.
Mais quand pour quelle raison, je vous laisse finir, allez-y.
Justement. Parce que, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle a fait faire? Qu'est-ce qu'a fait faire Macron quand la France était critiquée à l'international? Rappelez-vous, à travers des articles de pays anglo-saxons, notamment, je pense au New York Times, au Washington Post, il a fait dépublier des articles de presse qui lui étaient critiques. D'accord?
Oui.
Ensuite, il est passé à une seconde étape où il a balayé d'un revers de main l'avis de l'ONU et des ONG internationales qui l'alertaient justement sur ce glissement de la France, et donc du gouvernement Macron particulièrement, vers des mesures qui mettent en péril l'état de droit. Et maintenant, à quoi assiste-t-on? On assiste à une phase du gouvernement de Macron où il cherche à harceler tous ceux qui promeuvent les libertés, notamment dans le cas d'espèce.
Bon, alors vous parlez de Macron, j'entends bien, mais il y a aussi également Marine Le Pen, le gouvernement, il y a aussi Marine Le Pen qui a réagi, qui dit cette communication européenne en faveur du voile islamique est scandaleuse et indécente, alors que des millions de femmes se battent avec courage dans cet avertissement, y compris en France. C'est quand les femmes retirent le voile qu'elles deviennent libres par l'inverse. Ça, c'est son tweet. Valérie Pécresse parle de choc et stupeur devant cette campagne du Conseil de l'Europe. Non, le voile n'est pas un vêtement comme un autre. Il n'est pas symbole de liberté, mais de soumission. Et le rôle de l'Europe, c'est de soutenir les femmes qui se battent dans le monde pour le droit de le retirer. Bon, ça fait. Alors, les politiques de tous bords ont réagi d'ailleurs.
Oui, c'est très juste. Et vous faites bien de rappeler ça. Vous faites bien de rappeler que justement la critique vient de tous les bords politiques. Qu'est-ce que ça nous dit de notre pays, malheureusement? C'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite fait système dans notre pays. D'accord? Et cette extrême droite, ce système-là, on cherche à l'exporter à l'échelle européenne. La dernière fois, il y a eu un tweet de Marlène Schiappa qui disait qu'elle était partie en Autriche justement pour discuter, mais il n'y a pas que l'Autriche, il discute aussi avec la Hongrie, pour voir comment lutter officiellement contre l'islamisme. Mais en réalité, on le voit en France, sous prétexte de lutte contre le terrorisme et de lutte contre l'islamisme, la réalité, c'est qu'on réduit de plus en plus les droits et les libertés des musulmans.
Alors pourquoi ça choque? Pourquoi tout le monde est choqué? Le gouvernement, la gauche, choqué, on parle même de stupeur.
Il n'y a pas de choc. Non, ça c'est le discours qu'on veut bien nous servir. La réalité, on le voit depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui donne le là. Regardez ce que l'on a, par exemple. On a dernièrement, on invite Renaud Camus, le promoteur du grand emplacement, sur un média. D'accord? On a des fermetures administratives de lieux de culte à tour de bras. D'accord? On a CNews qui organise des mises en scène de développement public d'une femme face à un multirécidiviste condamné pour haine raciale. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un système qui est mis en place par le discours toutes ces années de l'extrême droite, donc aujourd'hui qui devient une réalité par la mise en place d'un arsenal législatif, notamment je pense à la loi Silt et à la loi sur le séparatisme.
Alors on dit quoi aujourd'hui?
Comment voulez-vous dès lors que le gouvernement, M. Macron et les partis également dits républicains puissent se présenter comme une alternative à quelqu'un comme Mme Le Pen ou le multirécidiviste Zemmour dès lors que vous menez leur politique?
Oui.
Comment vous...
Vous regrettez, Samy Deba, justement, que cette campagne soit retirée aussitôt, d'ailleurs?
C'est dramatique.
Dramatique.
C'est dramatique. Quand je vois que le gouvernement français a activé tout son réseau diplomatique pour faire retirer cette campagne, ça en dit long sur le talent de ce réseau diplomatique, d'accord ? Qu'on ne mesure plus maintenant à sa capacité à sécuriser un contrat de vente des sous-marins, mais plutôt à sa capacité à exporter son obsession du voile dans toute l'Europe.
Ouais.
Voilà quoi sert
Eric Zemmour retweet. Je vais vous lire le tweet de Eric Zemmour. L'islam est l'ennemi de la liberté. Cette campagne est l'ennemi de la vérité. A tweeté le polémiste, donc Eric Zemmour, qui lui, rappelons-le, hein, est probablement candidat à la présidentielle. Bon, Samy.
Je voudrais. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à parler de Zemmour, mais si vous voulez en dire deux mots, on pourra en dire, il n'y a pas de problème. Mais vous, tout le monde comprend aujourd'hui, et dernièrement, il y a une interview d'Arnaud de Montebourg qui reprend cette idée à son actif, c'est qu'aujourd'hui, Zemmour arrange bien, par l'outrance de ses propos, quelqu'un comme Macron.
Oui.
Il n'y a aucun intérêt à fermer, à empêcher Zemmour de parler. Il n'y a aucun intérêt, bien au contraire.
Bon, comment Samy Deba, comment vous voyez les choses à terme, effectivement, face à cette, vous l'avez rappelé, pression qui est venue de tous bords, d'ailleurs, cette levée de boucliers en France, autour de portraits de jeunes femmes, d'ailleurs, de cette campagne qui a été retirée aujourd'hui, rappelons-le, avec ce slogan « La liberté dans le hijab », qui passe pas du tout, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent, mon cher Samy Deba ?
Écoutez, si vous permettez, finir sur une note qui est importante en termes d'espoir pour les gens qui nous écoutent. J'écoute les gens autour de nous. On a vraiment une population qui est totalement désespérée de la situation.
Oui.
Parce qu'on essaye de faire croire que les discours d'extrême droite, les positions des uns et des autres, qui sont des positions idéologiques d'extrême droite, sont les idées dominantes dans la société. C'est pas vrai. Il faut relativiser leur poids. Et il faut le relativiser parce que dans la réalité, ils ne représentent qu'une infime minorité. Sauf que c'est une minorité bruyante. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a terrorisé toutes les voies alternatives en leur faisant croire qu'ils sont une minorité, en les isolant et en les menaçant. D'accord ? Il faut... La réalité, elle n'est pas celle-là. Il suffit de prendre le temps pour voir la réalité de l'échiquier politique et de la société française pour comprendre que ce qu'on essaye de faire, de mettre en avant et d'essayer de présenter comme un problème, à savoir l'islam et la population musulmane dans notre pays, n'est en réalité pas du tout le problème numéro un des Français. Et les Français s'inquiètent du pouvoir d'achat, s'inquiètent de l'inaction climatique, s'inquiètent du chômage, s'inquiètent de la violence de la police contre les manifestants, s'inquiète des promesses non tenues, s'inquiète de la fraude fiscale. C'est de ça, tous les sondages le montrent. Mais mettre en avant un problème musulman construit de toutes pièces et qui occupe un espace médiatique quand même extraordinaire, c'est justement éviter de parler sur ce qui préoccupe les Français.
Eh bien, merci.
Il faut aujourd'hui, et ce sera mon dernier propos, il faut aujourd'hui que toutes les forces démocratiques et les soutiens de la liberté et des valeurs fondamentales de notre pays s'unissent concrètement. Et d'ici les mois qui nous séparent à l'échéance présidentielle, puis celles qui vont suivre les législatives, fassent un travail de fond pour remobiliser toutes ces forces avec l'ensemble des Français, avoir un discours d'espoir et un vrai projet pour notre pays. Et vous verrez que tous ces gens-là disparaîtront dans les oubliettes. Mais il faut le faire. Si on ne bouge pas, il est clair que ce discours continuera à dominer la sphère médiatique et politique.
Merci Samy Deba d'avoir été avec nous. Vous êtes élu d'opposition sur la ville de Garges, les Gonesses, et vous êtes aussi l'un des fondateurs, rappelons-le, du collectif contre l'islamophobie en France, qu'on appelle le CCIF. Merci mon cher Samy Deba et à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, 19h14, on va marquer une pause. Je vous attends, le standard, évidemment. Comme tous les soirs, les auditeurs ont la parole. 01 53 48 3000. Je salue ceux qui sont déjà sur le plateau. Il s'agit de Sabrina Nouri, bonjour.
Bonsoir.
Elle aussi, c'est une élue de Brétigny, donc Brétigny-sur-Marne. L'élu, bienvenue madame l'élu.
Eh bien, merci de m'accueillir.
Et aussi, vous êtes la France insoumise.
Tout à fait.
Absolument. Face à vous, c'est Gamal Abina, réalisateur, mais notamment un vrai militant associatif. Bonjour Gamal Abina.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. Je le rappelle, avant de lancer la pub, le prix Goncourt de cette année, eh bien, c'est Mohamed Bougar Sarr. Et bravo à lui pour son livre « La plus secrète mémoire des hommes », écrivain sénégalais de 31 ans. Le plus jeune, d'ailleurs, à avoir remporté le prix Goncourt de cette année. Eh bien, bravo à ce jeune Mohamed Bougar. Et on tentera, nous aussi, de décrocher son interview. 01 53 48 3000, je vous attends pour ces histoires de cette campagne qui a été retirée concernant donc cette levée de bouclier en France autour des portraits de jeunes femmes de cette campagne qui célèbre la diversité et la liberté dans le hijab. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
Eh bien, si vous venez de nous retrouver 19h23, c'est les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Sabrina Nouri de porte-parole, j'allais dire. Non, vous n'êtes pas la porte-parole, vous êtes la France Insoumise.
Je suis France Insoumise, élue de
Brétigny. Voilà. Absolument. Et enfin, face à elle, vous avez Gamal Abina. Tout de suite, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On attend au standard, on vous attend au 01 53 48 3000 pour réagir. En attendant vos appels sur cette campagne lancée la semaine dernière par le Conseil de l'Europe célébrant la diversité, mais la liberté dans le hijab qui a suscité une levée de boucliers en France. Les portraits de femmes, de jeunes femmes de cette campagne ont été retirés aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Dites-nous, franchement, est-ce que vous comprenez que cette campagne soit retirée? Est-ce que ça vous met en colère? Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que ces slogans, la liberté dans le hijab, ils passent mal, ils passent bien? Bref, 01 53 48 3000. Gamal Abina, en attendant les appels des auditeurs. Alors parlons-en justement.
Enfin, moi, j'ai eu l'occasion. Bon, je connais bien Samy Deba, avec lequel j'ai milité à l'époque, pas au CCIF, mais sur les questions d'antiracisme. Oui. Et on se trompe pas de combat en vérité. Mais là vraiment, j'ai assisté à une plaisanterie d'un niveau stratosphérique qu'on a rarement vu. De voir que, par exemple, une Sarah El Ayari, je la nomme parce que...
Secrétaire d'État.
Elle est pathétique. Bon, j'avais vu à l'époque sur les manifestations...
Pourquoi elle est pathétique? On va essayer de retrouver l'interview.
Ah bah simplement
tiens, j'ai demandé au réalisateur de nous retrouver l'interview de la ministre secrétaire d'État réagissant à la campagne. Et on va écouter ses propos. C'est sur BFM... Non, LCI.
Sur LCI.
Sur LCI, face à Ruth El Krieff, nos consoeurs.
Vous connaissez le nègre d'intérieur, cher à... Malcolm X qui expliquait que ce fameux nègre d'intérieur pleurait pour son maître, souffrait pour son maître, avait la maladie du maître. Bref, c'était l'identification totale parce qu'il avait une position de confort. Il était dans la maison au chaud. Le nègre des champs, lui, souffrait, le martyr était frappé, était humilié et ne pleurait pas pour son maître. Parce que le nègre des champs, il sait très bien ce que vaut son maître. Et bien là, j'ai envie de dire qu'elle, c'est le singe du maître d'intérieur. C'est-à-dire qu'elle a besoin...
Vous allez loin quand même. Là.
Ah, mais je vais très très loin.
Parce que loin.
Elle va tellement loin.
Je sens qu'on va se faire des amis, dites donc.
Mais j'ai aucun problème. Moi,
je la reçois bientôt en plus.
Bah, ce sera avec plaisir que je débarque.
Elle m'a répondu, nous a dit oui.
Ce sera avec plaisir. Oui. Le débat va tourner court parce qu'elle n'est pas très très calibrée sur le plan intellectuel. Pourquoi je dis ça?
Soyez pas.
Ah, non, je dis comment? Je dis parce que elle répète comme un robot ce qu'on lui a dit de dire. En substance, elle a défendu une position sur cette histoire de campagne. C'est une campagne qui est européenne, je rappelle. C'est pas une campagne française. Donc maintenant, les Français font sortir le dit de l'Europe. Bref. Elle dit quoi? Elle dit que c'est une question identitaire. Donc elle a tout compris des débat. Elle a rien compris à la question. C'est-à-dire qu'ils sont tellement mal dans leur peau pour essayer d'appréhender cette question qu'ils finissent par dire, mais on n'accepte pas qu'une femme qui d'ailleurs, je rappelle que dans la campagne, elle n'est pas voilée, puis voilée. Hein,
on est en train de retrouver cette interview,
voilà.
Justement.
On n'accepte pas cela parce que ce serait une campagne identitaire. Eh bien, en vérité, il faut être très clair. L'obsession je vais utiliser un terme fort pour vraiment décrédibiliser le propos, d'un bout de chiffon sur une tête, je trouve ça tellement pathétique et ça cache tellement difficilement mal le racisme et certaines personnes qui se prêtent à l'exercice que je le dénonce aujourd'hui. On parle toujours du voile quand on ne parle pas d'économie, quand on ne parle pas d'épuis, quand on ne parle pas de jeunes qui sont en train de se suicider, quand on ne parle pas de problématiques violentes que la France traverse, quand on ne parle pas de l'humiliation, et je le rappelle, que la France a subi par rapport à son marin.
Remonter.
Ben je trouve ça intolérable. Ça va 5 minutes, les blagues du voile. Dites-le directement, on ne veut pas de bougnoules chez nous. quand on leur a dit ça, les choses sont claires. Moi, je préfère parler des gens honnêtes qu'à des hypocrites. Il y a un type, je vais pas le nommer parce
mais
que
vous savez que la France, c'est la laïcité.
Non, la France, c'est pas la laïcité, le problème de la laïcité. D'abord, rappelons ce qu'est la laïcité, parce qu'on oublie toujours les termes. C'est pas la laïcité positive, toutes ces bêtises-là n'existent pas. La laïcité, c'était séparation de l'Église qui était puissante avec l'État. Pour dire quoi? Vous n'enseignerez plus le catéchisme à l'école, vous n'enseignerez plus nos enfants les valeurs morales, vous dégagez, vous restez dans votre coin, vous aurez que l'armée. C'est ce qui reste à peu près au courant plutôt religieux. Donc la laïcité, ça s'est remporté à une voix près. C'était clairement anti-curé, il faut être très clair. Aujourd'hui, cette soi-disant laïcité, elle est destinée à dire aux immigrés, vous nous gênez, votre présence est visible, on ne veut pas vous voir. Alors, si, enfin aux immigrés, là, quand je dis vous immigrés, aux descendants 2, 3, 4, 5e génération, parce qu'ils manifestent quoi? Ils manifestent des signes d'extériorité culturelle d'islamité. Alors, qu'il porte ou pas le voile, de toute façon, le nom est une exclusive. Je parle bien du nom et du prénom. 40% de chômage dans les banlieues, c'est parce que ceux qui décident sont des racistes qui ne veulent pas embaucher d'arabes et de noirs. C'est tout. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir un nom comme, je sais pas, Noël, Ursule, on se demande s'il est peut-être noir, on sait pas trop, et puis quand on le voit, on le prend pas non plus, il y a pas de problème. Alors. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on appelle à chat à chat. S'ils ont un problème avec le voile et qu'on retire le voile, ils ont un problème avec les cheveux, à ce moment-là, qu'ils retirent l'arabe de France, c'est tout.
Gamal Abina est en colère. Absolument. Est-ce que Sabrina Nouri est en colère également?
Alors, moi, je suis pas du tout en colère. Nuancée. Je vais vous dire, non, moi, je suis pas du tout en colère et je suis pas du tout nuancée non plus. Moi, ce que je constate, c'est que systématiquement, la sphère médiatique prend les sujets de l'extrême droite et on y va à fond les ballons.
C'est pas que les
attendez.
Attendez. La droite, la gauche, c'est tout le monde.
Les macronistes qui passent les plats.
Il y a une levée de boucliers de tout bord.
Non, monsieur Adil Ferkan. Les macronistes qui passent les plats à l'extrême droite. On a connu avec la loi séparatisme. L'extrême droite avec Zemmour. On est en plein dedans. Non mais là, faut sortir de ce cauchemar. Et moi, je ne commenterai pas cette polémique parce que c'est une polémique parmi les autres. Et moi, je suis désolée, monsieur Adil Ferkan. Aujourd'hui, vous avez 10 millions de pauvres. Vous avez 8 millions de personnes qui ont besoin d'aide, d'aide alimentaire. Aujourd'hui, la précarité, touche les femmes essentiellement. Aujourd'hui, la précarité touche les femmes essentiellement. Deux tiers des contrats précaires, CDD.
On en parle tout à l'heure, ça.
Je parle des femmes, monsieur. Oui. Non, je parle des femmes. Je parle de la précarité qui s'est féminisée. Et là, on me parle aujourd'hui du voile. On me parle aujourd'hui du voile. Moi, je m'adresse à toutes ces femmes des quartiers populaires et à toutes ces femmes de France. Moi, j'ai envie de leur dire quelque chose ce soir. J'ai envie de leur dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est pas le voile. Notre priorité, c'est le pouvoir d'achat. Alors, c'est sortir de cette précarité. 80% des familles monoparentales sont constituées de femmes et d'enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour elles aujourd'hui? Rien. Que fait-on du SMIC? Pourquoi ils n'augmentent pas le SMIC? Plus de 50% des personnes qui ont le SMIC sont des femmes. Que fait-on pour elles? Rien. Et aujourd'hui, on me demande de commenter un bout de tissu, comme dit monsieur Gamal Abina, sur la tête. On me demande de commenter ça. Il faut que je commente. Il faut que j'aille dans la polémique. Il faut qu'on me dicte ce que je dois dire à l'antenne. Nous sommes en peine. Campagne présidentielle, ils utilisent encore et toujours les mêmes sujets et on en a ras-le-bol et on en a marre.
Écoutons la ministre de.
J'étais pas énervé.
Écoutons la secrétaire d'État. Écoutons la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, madame Sarah El-Haïry, qui justement réagit face à cette campagne qui a été retirée aujourd'hui. Écoutons.
Sarah El-Haïry, je voulais aussi vous interroger sur cette vidéo du Conseil de l'Europe, l'antenne du Conseil de l'Europe contre les discriminations. C'est absolument pas la Commission européenne, c'est quelque chose de très spécifique, mais qui a fait beaucoup parler. Et je connais votre engagement sur ces questions. Vous avez été devant des associations et très engagé sur la liberté des femmes, sur la lutte contre le communautarisme. Et donc cette vidéo, elle a fait beaucoup réagir. On va la regarder. La beauté est dans la diversité, comme la liberté dans le hijab, avec des visages de jeunes femmes non voilées, puis qui apparaissent voilées. C'est une vidéo qui a fait réagir des politiques français, en l'occurrence Marine Le Pen et Éric Zemmour. Mais moi, je voulais savoir si elle vous faisait réagir, si elle vous choquait ou pas.
Cette vidéo, elle m'a profondément choquée. Elle m'a tellement profondément choquée que elle bouscule, parce que c'est absolument l'opposé de nos valeurs. C'est l'opposé des valeurs que la France défend, la liberté de conviction, bien sûr. Mais là, c'est pas ça. Là, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est le fait de prôner le port du hijab, le port du voile. Et en ça, c'est absolument condamnable. Parce que c'est condamnable, la France a fait part de sa désapprobation, de cette désapprobation extrêmement vive, d'où le retrait de cette campagne dès aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça. Effectivement, ce soir, cette vidéo n'est plus visible.
Oui.
Le conseil...
vous l'aurez compris, on voulait juste entendre la déclaration donc, de Mme Lamine.
C'est intéressant de parler, parce que, bon, on l'a pété jusqu'au bout, après elle parle de...
Face à Ruth
Elle mélange tout en plus, elle mélange tout.
Elle dit quoi? Elle dit quelque chose qui est bête, parce qu'elle manifestement elle maîtrise pas le droit. Elle dit c'est condamnable. Ce qui est condamnable, c'est le prosélytisme. La campagne ne dit pas porter le voile. Elle dit c'est une façon de se libérer pour certaines personnes et pas pour toutes. On fait ce qu'on veut. Il parle de beauté. Et là, moi, je parle de laideur. On va parler de laideur. La laideur est dans la censure. On savait, alors je vais faire un peu d'histoire très rapidement, hein. Quand les lois racistes ont été installées en Allemagne, j'aime bien revenir sur l'histoire parce que ça fait une petite piqûre de rappel. Parce qu'en France, on n'a pas encore réformé le problème du péténisme et du néo-péténisme qui est toujours bien ancré. Quand les lois racistes ont été promulguées, le but des Allemands était de faire en sorte que les peuples de langue allemande et de culture allemande et de race aryenne partagent le même principe raciste. Ce qui se passe aujourd'hui, je le dis de façon très claire, hein, ce qui se passe aujourd'hui,
on c'est entend.
Que les Français osent aller au Conseil de l'Europe, osent aller sur les instances européennes pour dire « censurez-moi cette vidéo que je ne saurais voir ». C'est intolérable. D'abord, que leur lumière soit sortie à coup de canon par Napoléon, on connaît la musique. Zemmour adore Napoléon. Il adore les dictateurs qui massacrent la moitié de l'Europe. Mais qu'ils nous sortent que maintenant, les lumières françaises de la République laïque dans lesquels il y a quatre pays qui avaient partagé ça et les quatre pays ont disparu littéralement, ils ne font plus laïcité. La Turquie, la Tunisie, l'Irak, c'est fini, il ne reste plus que la France. Que la France veuille de force maintenant imposer ses principes laïcars à l'Europe alors qu'elle n'a pas le droit de le faire, c'est inadmissible. Et tout à l'heure, ça a été dit très bien. Ils ne savent pas négocier la vente de sous-marins pour garantir l'emploi en France. Par contre, ils savent négocier les coups de pression en Europe pour faire une censure de vidéos. Moi, je réponds, si on est dans un pays soi-disant démocratique, libéral, ultra-libéral maintenant malheureusement, mais surtout un pays dans lequel on garantit au moins l'expression libre à travers une instance supranationale européenne, comment ont-ils pu obtenir la suppression de cette vidéo?
01 53 48 3000, je vous attends partout en France, justement, réagissez. Qu'est-ce que vous en pensez, Sabrina Nouri, la déclaration de la secrétaire d'État, Sarah El-Haïry?
Moi, je pense que la pauvre, elle s'est mise dans une situation très inconfortable et qu'effectivement, elle a dû lire son papier et on lui a fait répéter simplement ce qu'il fallait dire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit le voile ou d'autres accoutrements, on ne peut pas passer à côté. Mais aujourd'hui, la liberté, c'est celle-là. C'est la liberté de choisir comment on veut se vêtir, comment on veut pas se vêtir, avec ou sans. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, une majorité de Français, parce que c'est ça dont il s'agit, c'est une majorité de Français, s'en fiche complètement. Et on le voit à travers nos discours, et on le voit à travers quand on va aller à la rencontre des gens, quand on va faire du porte-à-porte, ils nous le disent, on en a marre. Mmh. On en a marre de tout ça. On en a marre. Mais le problème, c'est que la sphère médiatique ne veut pas lâcher, et ne lâchera pas, et continuera à exporter ces idées d'extrême droite. Pourquoi ? Pour faire monter la pression de l'extrême droite et pour que Macron puisse encore et toujours avoir une possibilité d'accéder là où il est aujourd'hui. Et je pense que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour notre démocratie. C'est très dangereux pour l'avenir aussi de notre pays. Et quel est le message que l'on va apporter à tous nos jeunes, à tous
donc
nos enfants?
Donc cette polémique n'aurait pas dû avoir lieu.
Mais cette polémique n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est un ridicule sans nom.
Absolument, mais ce qui est clair, là je rejoins totalement ce qu'il dit. Il y a des problématiques, on les a vues avec les Gilets jaunes, qui étaient très claires. Ils n'ont pas sorti un panneau pour dire « virez-moi les musulmans de place ». La problématique qu'on pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est une problématique économique qu'on ne peut pas résoudre. Sur le second sujet, on parlera effectivement de la façon de vouloir aider les jeunes, alors que la situation n'est pas favorable. Mais en substance, on a quoi? On a des gens qui bossent. Qui bosse à quoi? À radicaliser des positions d'une population qui n'est pas encore encline à le faire. Et quand je fais toujours un parallèle avec l'Allemagne des années 30, c'est parce que c'est pareil. Quand les nazis mettaient le paquet pour la haine du juif, les Allemands n'étaient pas prêts à accepter ça. C'est pas vrai. La majorité allemande s'en foutait. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est une condition économique qui s'est améliorée. Quand c'est arrivé, après, les juifs s'en occupaient plus. En France, on est dans le sens contraire. La condition se dégrade, le chômage est de masse, et on a besoin, effectivement, pour faire en sorte de ne pas parler des vrais problèmes qui fâchent, hein, parce qu'à l'époque, les campagnes, c'est quand même sur le chômage, le pouvoir d'achat, c'est les choses sérieuses dont on parlait. Maintenant, on parle plus de ça, on compare compare même plus la France à l'Allemagne par rapport à l'économie, puisqu'on est tellement loin de l'Allemagne aujourd'hui qu'ils ont pas, ils n'osent plus le faire. Et on parle de quoi? On parle d'épiphénomènes, de choses ridicules et marginales, pour faire croire qu'il y aurait un problème de massification de voile, par exemple, ce qui est faux. Bon. Il y aurait un problème de violence dans les banlieues massives, qui est faux aussi. Et surtout, ils font monter en sauce un personnage qui est très âgé, d'ailleurs, je le rappelle. Je parle de Monsieur Zemmour. Je provoque au moins une dizaine de fois. Je fais passer par ses producteurs, malheureusement, parce qu'il ne répond pas, alors qu'il avait répondu par la favorable à un débat avec moi, parce que manifestement, Monsieur Zemmour ne prend en sparring partner que des gens faibles. Il est incapable d'affronter une personne qui lui dirait, parce que j'ai une expérience aussi longue que la sienne, ce qui se passe réellement dans les quartiers qu'il montre du doigt et qu'il ne connaît pas. Et bien, tout cela pour dire que Monsieur Zemmour et toute l'équipe qui l'entoure autour, parce que c'est des hommes d'affaires qui font le travail, ces gens-là font monter la sauce parce qu'ils sont incapables de répondre aux réalités économiques de la population.
Et la politique de la peur.
Là, c'est la politique de la peur, et surtout pour dire que pendant le Covid, les milliardaires se sont de loin enrichis, alors que la population se paupérisait.
Donc, on revient justement, on continue d'en parler. Si vous souhaitez réagir, 01 53 48 3000, on va passer aussi à ce second sujet. Ce fameux contrat d'engagement jeune. Ça vous plaît, Sabrina, ça, je sais. Une aide de 500 euros pour les 16-25 ans à partir du 1er mars 2022. On vous écoutera. C'était une boutade. Bien sûr.
Bien sûr.
19h37, on marque la dernière pause pub et on se retrouve tout de suite après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h42, le standard reste toujours ouvert, 01-53-48-3000, vous réagissez quand vous voulez. 19h42, le face-à-face continue.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Sabrina Nourri. Pourquoi je vous...
Je sais pas, c'est peut-être un signe, j'en sais rien.
Depuis deux fois là, à deux reprises, je lui ai dit porte-parole.
Mais elle porte bien la parole.
Oui, elle porte bien là, je vois qu'elle défend bien, effectivement, les valeurs de la France insoumise. Elle est élue sur la ville de Brétigny-sur-Marne.
Non, Brétigny-sur-Orge.
Sur Orge, pardon.
Dans le 91.
Sur Orge, c'est vrai.
Je les salue d'ailleurs.
Et enfin, Gamal Abina, réalisateur, mais également aussi militant engagé absolument de longue date, n'est-ce pas?
Ça commence à dire.
Je ne compte même plus. C'est vrai, ça date. Hein. Madame, messieurs, contrat engagement jeune. Une aide de 500 euros pour les 16-25 ans qui démarre le 1er mars 2022. Alors, ce contrat, est-ce que c'est une mesure qui vous parle? Est-ce que l'objectif, parce que l'objectif, rappelons-le quand même, c'est de reprendre rapidement une activité via la découverte de métiers, de formations qualifiantes, d'emplois dans un secteur, etc., etc. Alors, vraie ou bonne ou fausse idée, ça vous fait sourire peut-être, mais dites-moi aujourd'hui, hein, est-ce que c'est une idée qui peut contribuer à accompagner justement ces jeunes?
Non, mais soyons sérieux, deux minutes. Encore un coup de communication. Encore un coup de communication, de toute façon, pendant 5 ans.
Attendez.
Un coup de communication. On a l'habitude. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que ça dure.
Un coup de pouce ?
Non, ça fait 5 ans que ça dure.
Coup de pouce.
Coup de communication. Deux mois avant les élections. Distribution de bons points. Distribution de billets. OK. Bon, maintenant, on va regarder en détail.
Là, vous faites la politique.
Non, mais on va regarder en détail quelle est cette mesure ou mesurette.
Là, c'est la parole de Benoît.
Mesure ou mesurette. Déjà, ça concerne à peine 500 000 jeunes. À peine. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait des étudiants ? Qu'est-ce qu'on fait des étudiants qui sont dans les lycées professionnels? Qu'est-ce qu'on fait? Les repas à 1 euro, ils n'ont pas été supprimés? Ils ont été supprimés.
Vous trouvez que c'est pas suffisant, cette allocation de 500 euros?
Non mais attendez, il y a eu des propositions qui ont été faites, par exemple une mesure d'urgence, le SMIC jeune, le SMIC jeune ou alors le RSA jeune, tout a été refusé. Et aujourd'hui, abracadabra, magie, on va encore faire une mesure, 500, on va donner 500 euros, mais on va donner à qui? On va donner pourquoi? C'est quoi derrière? On ne sait même pas à quoi ça va correspondre, qui va, quelles sont les associations qui vont aider, quels sont les jeunes qui seront concernés. C'est encore flou, c'est toujours la même chose parce que c'est juste, écoutez-moi bien, c'est juste un coup de communication, un de plus. Je vous dis, ça fait 5 ans que ça dure et ça suffit. Nous, ce qu'on propose, c'est des choses concrètes.
De coup de pouce pour les 16-25
ans. Non, mais attendez, on va parler de choses concrètes. Nous, ce qu'on propose.
C'est pas concret?
Non mais attends, je vous dis, non c'est pas concret parce que c'est flou. Qu'ils nous disent comment il va l'appliquer, avec qui, et aujourd'hui c'est toujours pas le cas. On est en train de chercher qui fait quoi là-dedans. Donc
magique,
la création, la Oui, bon.
Il y a un moment, non, mais je précise le mot magique, c'est important. C'est pas 500 euros, c'est jusqu'à 500 euros.
Non, mais je vous dis, c'est comme les 100 euros qu'il va donner à la fin de l'année. C'est calculé sur le revenu annuel. Maintenant, on est au courant. Mmh. Voilà, il y a toujours des petites étoiles dans un contrat. Faut les lire. Hein. Et ben là, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on propose, ce sont des choses concrètes, d'accord. Donc, créer une allocation autonomie pour les jeunes, les étudiants, les lycées professionnels, c'est 1063 euros net.
Là, vous faites la campagne.
Mais attendez, je fais les propositions. Mais moi je suis là pour proposer des choses, une alternative. Vous savez ce que c'est? C'est une alternative à Monsieur Macron. Oui, on est là. Oui, on a travaillé. Ça fait 5 ans. On a fait donc un programme de 2017 jusqu'à aujourd'hui. On l'a amélioré. On a travaillé tous ensemble avec les associations, avec les collectifs. On a des propositions. Vous savez que cette proposition de l'allocation autonomie, ça date des années 80. Ça date des années 80. L'historique, c'est que l'ensemble des mouvements syndicaux étudiants le demandent depuis les années 80. Comment se fait-il qu'il y a des étudiants qui sont dans une précarité? Vous avez vu les files d'attente dans aux aides alimentaires. Mais c'est honteux.
Un véritable accompagnement.
Ce n'est pas un accompagnement. Nous, ce qu'on a proposé, c'est donc un emploi spécifique jeune d'une durée de 5 ans. Donc ça laisse le temps de voir venir le jeune qui peut aussi se former à distance, etc. Donc 5 ans dans les secteurs non marchands et publics avec une rémunération correcte. Aujourd'hui, c'est 500 euros. Vous savez combien ça fait de l'heure? C'est même pas 5 euros. Non, mais vous vous rendez compte, c'est quoi cette précarité? Ah, ça, pour la précarité, il y a du monde. Hein. Pour supprimer l'ISF, dégager les riches de toute responsabilité envers l'effort du pays, ça, il y a du monde. Mais par contre, éradiquer la pauvreté, il n'y a plus personne.
Sabrina Nourri, foutaise?
Mais foutaise, on prend ce qu'il y a à prendre, monsieur Farkan. On va pas dire non. Bien évidemment qu'on va prendre ce qu'il y a à prendre. Quand même, il y a des gens qui sont dans une souffrance et dans une misère telle que oui, 400, 500 euros, on les prend. Mais aujourd'hui, on veut des mesures pérennes. On veut un projet fiable et concret pour les jeunes. La jeunesse souffre dans notre pays. Bon, la jeunesse souffre dans nos pays. Il faut leur apporter des réponses.
Gamal Abina, Gamal Abina.
Alors, sur le fait de dire qu'effectivement, ça laisse une précarité monumentale, c'est indiscutable. Mais moi, j'ai envie de dire une chose qui me paraît plus sérieuse. D'abord,
parce que ce que je dis, c'est pas sérieux.
Non, je parle pas de
ça. Mes propositions sont très sérieuses.
Sur les programmes qui est fait là.
Ah, d'accord.
Plus sérieux, parce
autant
que lui,
pour moi.
Ouais, il nous annonce quoi? Il nous annonce 500 euros. Jusqu'à 500 euros, ça signifie que c'est au cas par cas, comme d'habitude. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça commence pas maintenant, ça commencera en mars. Donc déjà, on n'est pas loin de l'échéance. On a le temps de discuter, on a le temps d'oublier. Mais moi, ce qui me pose problème,
c'est le temps de mettre en place le dispositif.
Si j'ai un politique en face de moi, en 3 minutes, je le démonte. J'ai fait une fois avec Ségolène Royal et elle a été atomisée. Pourquoi?
Pardonnez-moi, Gamal Abina, tout à l'heure, vous m'avez posé la question à qui s'adresse justement cette aide. Cette aide s'adresse aux jeunes destinés de 16 à 25 ans, sans emploi, ni formation, ni emploi, ni rien, qui pourront justement aller bénéficier de cet accompagnement.
Mais justement, on va en parler, ça
c'est... Et qu'est-ce qu'on fait? On ne les accompagne pas dans la formation?
C'est du maquillage. Il faut être très honnête, c'est du maquillage. On peut pas
un
dire
coup de communication.
Gens, dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs, on ne peut pas dire on va accompagner les jeunes avec avec un quart de salaire. Un tiers de salaire. Il faut être sérieux. En plus, il y a un truc, moi je ne comprends pas. J'ai une fois Royal en face de moi, je l'ai coincé sur les vraies questions. Je lui dis comment faire pour refaire revenir les entreprises ici et les obliger à rester? Des lois contraignantes. Ce que Trump a fait d'ailleurs, on peut critiquer Trump surtout, mais là-dessus il a été bon. Il a dit je vais vous mettre une amende si vous partez. Les gens sont revenus. Comment faire pour augmenter l'ardoise fiscale et pour augmenter les revenus de l'État et donner plus d'argent aux gens? Parce que c'est les riches qui doivent payer pour les pauvres, ce qui est normal, c'est le principe de la redistribution. Ils ne répondent pas à cette question. Comment faire pour que des entreprises qui sont créés dans les quartiers les plus défavorisés, embauchent les gens des quartiers défavorisés dont ils ne veulent pas? Il faut des lois contraignantes. Mais ça, ils n'en parlent pas. C'est pas parce qu'on donne un petit sucette de 500 balles par mois à quelqu'un pendant 6 mois que le problème de fond va être réglé. Le problème de fond, c'est quoi? C'est l'insertion sociale par le travail. Et pour insérer socialement, ces jeunes n'ont pas besoin de formation complémentaire. On les balade depuis des années avec des formations bidons qui vont nulle part. Je vous donne un petit exemple très concret, vous allez rigoler. La France, pays des dingos pour le coup, je parle de l'éducation nationale, à l'époque, dans les années 90, continuer à former des gens à être tourneurs, fraiseurs ou à faire des plaques informatiques à la main, de bac élite. Ils faisaient ça à la main. Ils étaient formés pendant 2-3 ans en CAP pour aller dans une voie de garage. C'est ça la réalité de ce territoire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de solution, on donne des formations qui vont nulle part et qui n'intègrent pas et n'insèrent pas les gens. Alors après, on parle d'assimilation, ce terme grossier et insultant, mais en vérité, la question problématique qui se pose, c'est comment insérer les gens dans la vie sociale d'un pays pour qu'ils puissent à la fois avoir une vie normale, se loger, se marier et pouvoir consommer comme tout le monde. La réponse n'est jamais donnée par ces politiques.
Mais alors on fait quoi désormais? Excusez-moi alors dans ce cas-là. Moi je vous vois réagir.
Mais comment
je vous
ça entends. Qu'est-ce qu'on fait?
Non, c'est pas ça. C'est que je vous vois réagir aujourd'hui. Quand le gouvernement ne fait rien, vous dites qu'effectivement on manque d'accompagnement.
Mais monsieur, ça fait 5 ans, ça fait 5 ans qu'on fait des propositions à l'Assemblée nationale. Tout est rejeté. Tout est rejeté. Même pendant le Covid, on a fait une proposition sur le RSA jeune, une proposition d'urgence. Hein. On n'a pas dit que ça allait être pérenne, mais une proposition d'urgence. Ça a été rejeté. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Aujourd'hui, il ne prend pas ses responsabilités. Rendez-vous au mois de mai 2022.
Et puis, il fallait sauver les étudiants aussi pour le Covid. Il faut le rappeler. Ils n'ont pas été sauvés. Hein.
Mais pas du tout. Mais pas du tout.
Ils n'étaient pas sauvés. Ils étaient assignés à résidence. Ils étaient en prison, à domicile, sans pouvoir travailler. Combien de suicides? On n'aura jamais les statistiques.
C'est un autre sujet encore qu'on avait abordé ici. Vous avez raison de parler effectivement lié à cette pandémie. Est-ce que vous avez aujourd'hui, comment doit-on accompagner ces jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui représentent 500 000, entre 400 et 500 000?
Il faut arrêter de se foutre de la gueule des jeunes ou des gens en général en leur jetant des billets à la figure. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un proverbe chinois très connu qui est d'ailleurs aussi arabe, d'ailleurs il faut le rappeler, qui dit « Mieux vaut apprendre à un homme à pêcher plutôt que lui donner du poisson de façon ponctuelle. » Là, la seule chose qui puisse être possible, c'est que la France recrée massivement par leur refixation d'entreprises qui ont été délocalisées en Chine, recrée massivement des emplois pour travailler. Dans les années 60, les fameuses 30 glorieuses, il y avait de l'emploi partout. Vous perdiez un emploi, vous étiez 50 mètres, vous étiez embauché. Il faut retrouver une configuration favorable et pour y arriver, et c'est là où je donne une proposition très concrète, il faut arrêter. Les Allemands ont compris. Les Allemands ont cassé la figure, entre guillemets, à tous les pays de l'Est. Ils ont massacré l'Ukraine, la Pologne, bref, ça c'est la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, ils ont dit on a fait n'importe quoi, on fait amende honorable, on va travailler avec eux, on va co-développer une économie très puissante. L'Allemagne est la première économie au monde quasiment par rapport à sa proportion de population parce qu'elle a su travailler avec ses pays frontaliers. La France refuse, alors qu'elle a massacré l'Afrique du Nord, de travailler avec les pays d'Afrique du Nord. Ils auront un bassin de développement industriel extraordinaire, peut-être une remigration dont certains rêvent, mais ça on s'en fout à la limite. Mais ce qui est sûr, c'est que ça créerait une dynamique de développement régional méditerranéen extraordinaire et il y a un marché africain derrière. Ça, c'est une solution concrète. J'entends aucun politique le dire parce qu'ils sont trop lâches. Parce que pourquoi ils ne peuvent pas le dire? Parce qu'il y a trop de racistes maintenant dans les têtes pensantes, pas la population, dans les têtes pensantes politiques pour accepter l'idée de se dire on va travailler à part égale avec l'Afrique du Nord. Voilà la vraie problématique.
Bon, là on est dans la géopolitique.
On est dans la géoéconomie.
La géoéconomique et la géopolitique. Non, Sabrina Nori, avant de rendre l'antenne.
Avant de rendre l'antenne, d'accord. Donc, non mais
prenez votre temps, il y a pas de souci, allez-y.
Non mais il faut déjà reproduire en France. Reproduire en France. Il faut aussi faire concrètement. Avancer immédiatement sur la bifurcation écologique, c'est des milliers d'emplois. C'est des milliers d'emplois et les jeunes peuvent s'y retrouver, bien évidemment, sur ce sujet. La bifurcation écologique, la parité. Aujourd'hui, vous savez que ce matin, depuis 9h22, les femmes aujourd'hui travaillent gratos jusqu'à la fin de l'année. À un moment donné...
Tu veux traduire, s'il te plaît, on n'a pas compris.
Parce que la traduction, c'est quoi? Il y a tellement d'inégalités entre les hommes et les femmes en termes de salaire, d'emploi, etc. Donc, on travaille en fait gratuitement. Là, on va travailler, mais gratuitement jusqu'à la fin de l'année.
Parce que moins bien payé.
Eh bien, exactement, moins bien payé. Donc, aujourd'hui, on a des solutions. Revaloriser le SMIC. Plus de 50% des femmes donc touchent le SMIC. Ça veut dire que ça c'est une vraie proposition, c'est une proposition même je dirais féministe, puisque plus de 50% qui touchent le SMIC sont des femmes. La parité dans les entreprises, là il va falloir la rendre obligatoire et il faut arrêter de passer par des systèmes, des montages qui fait que la promotion elle est donnée aux hommes et pas aux femmes. Les salaires, il y a toujours quelque chose qui va pas.
Il n'y a pas une nette amélioration.
Voilà. Donc non mais attendez, je vous dis, pendant 5 ans on a eu de la communication, oui ça c'est sûr, on a eu un coup de com. Donc maintenant
Mais
c'est vrai parce que à un moment donné, faut mettre les pieds dans le plat et il faut dire les choses et il faut surtout agir. Donc voilà. Maintenant, moi ce que je voudrais dire, c'est que un projet de bout à bout, ça se tient. L'avenir en commun, c'est de bout à bout et ça se tient. Nous sommes présents sur tous les sujets. Nous avons des propositions sur tous les sujets. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le partage des richesses, la valorisation de tous ces métiers féminisés, moi je pense, on les applaudissait pendant le Covid, les caissières, les agents d'entretien. Où est la revalorisation de ces métiers? Où est la revalorisation de ces métiers? Où est la revalorisation de ces métiers? Nous on le fera. Oui. Nous on le fera. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire.
Vous dites nous, c'est la France insoumise.
Absolument, la France insoumise, l'avenir en commun. le candidat Jean-Luc Mélenchon, et pas que, puisqu'il a une grosse, grosse équipe. Je les salue tous d'ailleurs. Et donc, on va essayer de mener cette campagne à bien. Et je voulais dire que notre prochain meeting se trouverait donc à Paris, le 5 décembre. Le 5 décembre prochain, meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Ça va être un gros, gros événement. Et je vous y invite tous.
Et donc elle fait de la. Elle commence, hein, ça y est.
Moi, ouais, bah, ça fait longtemps, elle commence pas. Mais par contre,
elle est très efficace. Elle démarre là, aujourd'hui. Très efficace.
Mais son aujourd'hui, féminisme bon. Là me plaît. Hein. C'est pas un féminisme que je trouve derrière garde. Elle est vraiment sur les questions essentielles, enfin les questions centrales, à savoir que les femmes sont moins bien traitées que les hommes sur le terrain de l'emploi. Et ça, c'est une réalité.
Bilal Lehmann, merci à vous, Sabrina Nori, élue d'opposition sur la ville de Brétigny-sur-Orge.
Merci et bonne soirée à toutes et tous.
Merci à Gamma, au plaisir. Absolument. Merci à Gamal Abina, réalisateur et militant associatif. Merci à vous. À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. C'est Bilal Nedman que vous retrouvez jusqu'à 21h20-21h. Et on ne lâche rien. À très bientôt. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.